Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Voici donc la chronique du groupe Fred Zeller pour ce lundi 8 avril 2024, en direct depuis les studios de Radio Libre en Périgord. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un sujet important, les migrants, ou plus précisément Frontex, cette agence européenne un petit peu particulière. Et pour cela, je vais utiliser une contribution de Pierre Galland. Pierre Galland, qui est un ancien sénateur belge, qui écrit un document intitulé « Frontex, un déni de respect des droits humains ». En une du soir, donc le journal belge Le Soir, du week-end du 30-31 mars, 1er avril 2024, on peut lire. Citation « Frontex en Belgique pour appuyer les retours forcés et surveiller les entrées. Et, dans la Libre Belgique, des agents Frontex pourront donc aider les policiers belges dans ces tâches et ainsi augmenter la capacité de contrôle et d'escorte des forces de l'ordre. Le texte, porté par la ministre de l'Intérieur Agnès Verlinden, a été adopté en Conseil des ministres ce vendredi. Il va désormais être transmis au Parlement. Qui est Frontex? Selon Wikipédia, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, appelée communément Frontex, est l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen. Elle est officiellement créée en 2004. Fin de citation. Au fil des ans, l'agence s'est vue dotée de moyens de plus en plus considérables et a connu de nombreuses dérives documentées qui ont été dénoncées par le médiateur européen et qui font l'objet d'âpres débats au Parlement européen. Jean Ziegler, qui je crois est un député suisse ou ex-député suisse, a pourfendu l'agence en parlant de « honte pour l'Europe ». Récemment, son directeur exécutif, Leggeri, a été forcé de démissionner de son poste. Il s'est empressé de rejoindre le Rassemblement national qui lui a offert une troisième place sur la liste européenne du RN. Il a fait l'objet de plusieurs rapports de l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, mettant en évidence de graves manquements et de pratiques illégales de refoulement de migrants, pushback, aux conséquences dramatiques. Frontex est devenue une milice européenne, une sorte de légion européenne dont les moyens humains et matériels ne font que croître. C'est ainsi que le budget de Frontex s'élève actuellement pour la période 2021-2027 à 6,4 milliards d'euros et ses effectifs actuels de 2100 agents seront portés à 10 000 gardes-frontières d'ici 2027. On se prend à rêver d'une progression analogue chez les enseignants. Ces chiffres ne comprennent pas les milliards d'euros accordés aux pays dits « partenaires » de l'Union dans le monde arabe, en Afrique subsaharienne, mais aussi à la Turquie, pour les soutenir, dit l'Union européenne, dans la prévention de l'immigration vers nos pays et lutter contre les crimes qui y sont associés. Cela prend la forme notamment de l'envoi de conseillers et de formation au service, et de formateurs, aux services de sécurité locaux, ou encore en installant des postes frontières extérieures à l'UE, dénommés « hotspots », en charge de faire le tri. À titre d'exemple, notre Premier ministre, donc c'est Pierre Galland qui parle, donc le Premier ministre belge, au nom de l'Europe, vient de se rendre avec Mme von der Leyen en Égypte, où il a signé ce genre d'accord avec le général président Sisi, s'élevant à 7,5 milliards d'euros. Dans le même temps, le FMI envisage un prêt d'urgence à l'Égypte de 10 milliards pour faire face aux difficultés rencontrées suite à la guerre israélienne et au potentiel risque d'arrivée de réfugiés de Gaza. On sait combien le général, bénéficiaire de ses largesses, est soucieux des droits humains et que dans ses prisons insalubres croupissent des dizaines de milliers de prisonniers. Depuis plusieurs années, les ONG des droits humains, parmi lesquelles la LDH, la Ligue des droits de l'homme, et des journalistes courageux, dénoncent ces dispositifs extrêmement coûteux et particulièrement inefficaces, sauf lorsqu'il s'agit de création de centres fermés, de camps d'internement, de brutalité, de noyades en mer en Méditerranée. L'agence Frontex jouit en outre d'une totale impunité et n'est pas redevable de ses actions menées au mépris des droits humains et de la vie des personnes. Plutôt que de faire croire à la possibilité d'assécher les flux migratoires, les ONG s'accordent pour revendiquer une autre politique et exiger que ces milliards d'euros soient reconvertis en ressources pour le développement de ces pays. C'est la seule vraie solution permettant aux populations du Grand Sud de vivre dignement de leurs ressources dans leur pays d'origine. Donc c'est un texte signé Pierre Galland, ancien sénateur de Belgique. Et Pierre Galland renvoie vers deux documents dont, que je vais également porter à votre connaissance. La Ligue des droits humains, les règles de Frontex empêchent les sauvetages de migrants naufragés. Donc voici ce texte. Un rapport de la médiatrice qui est titrée donc « Les règles de Frontex empêchent le sauvetage de migrants naufragés » et c'est un rapport officiel. Le rapport de la médiatrice européenne montre comment Frontex se prive de sauver des vies en mer du fait de son propre règlement. La médiatrice de l'Union européenne, Emily O'Reilly, a mis en cause mercredi les règles de Frontex, agence européenne des gardes-frontières et gardes-côtes, dans le naufrage de l'Adriana en juin 2023, qui a coûté la vie à plus de 600 migrants au large des côtes grecques. Elle appelle à une commission d'enquête indépendante. Des exemples tragiques en Grèce. L'intitulé de l'agence Frontex comporte la mention de garde-côte, mais son mandat et sa mission actuelle sont manifestement en deçà, affirme le rapport, publié à la suite d'une enquête ouverte d'initiative. Si Frontex a le devoir de sauver des vies en mer, mais que les rouages pour y parvenir font défaut, c'est clairement un problème qui incombe aux législateurs de l'UE, a ajouté l'Irlandaise, pointant les règles en vigueur chez Frontex. Selon son rapport, l'agence a proposé d'intervenir à 4 reprises auprès des autorités grecques pour assurer la surveillance aérienne du navire de pêche, mais n'a reçu aucune réponse. Citation. C'est l'application des règles en vigueur qui a empêché Frontex de se rendre sur le lieu du naufrage au moment le plus critique, car elle n'avait pas encore obtenu l'autorisation des autorités grecques, selon la médiatrice. Dans les faits, Frontex s'est rendu 2 fois sur le lieu du naufrage de l'Adriana, une première fois en le survolant rapidement en avion 2 heures après que les autorités italiennes ont déclenché l'alerte, puis 18 heures plus tard avec un drone alors que le bateau avait déjà coulé. Une série de manquements. L'enquête a également montré que Frontex ne disposait pas de directives internes en matière d'émission de signaux d'urgence, les appels Mayday, et que ses contrôleurs des droits fondamentaux n'étaient pas suffisamment impliqués dans la prise de décision en cas d'urgence maritime. Nous devons nous demander pourquoi un bateau qui avait tant besoin d'aide n'a jamais rien obtenu alors que sa situation périlleuse était connue d'une agence de l'UE, des autorités de 2 États membres, de la société civile et de navires privés. Pourquoi les mesures d'urgence de sauvetage qui auraient permis de sauver des centaines de vies n'ont pas été déclenchées alors que le bateau était bondé, qu'il n'y avait pas suffisamment de gilets de sauvetage, que des enfants étaient à bord et que le risque d'un drame était prévisible, a déclaré Emily O'Reilly. Elle pointe aussi la Grèce à mi-mot. Citation. Coopérer avec des autorités nationales dont les obligations en matière de recherche et de sauvetage ne semblent pas être respectées risque de rendre l'Union européenne complice d'actions qui violent les droits fondamentaux et portent atteinte à des vies humaines. Fin de citation. Face à l'absence de mécanismes de responsabilisation unique au niveau européen pour enquêter de manière indépendante sur le rôle des autorités grecques, de Frontex et de la Commission européenne pour le respect des droits fondamentaux, elle demande au Parlement européen, au Conseil, c'est-à-dire aux États membres, et à l'exécutif de créer une commission d'enquête indépendante. Presque 8 mois après cet événement tragique, aucun changement n'a été apporté pour empêcher qu'un tel drame ne se reproduise, a déclaré Emily O'Reilly. Voilà. Donc ça, c'était le premier document auquel renvoie Pierre Galland. Donc il y a un document donc, de la LDH belge, Ligue des droits humains, et un autre document de la Ligue donc, des droits de l'homme dit ceci. Comment mettre en cause la responsabilité de Frontex ? L'idée du réseau Migreurope, dont la LDH est membre du conseil d'administration, de lancer une campagne contre Frontex, l'agence pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, n'est pas tout à fait neuve. Elle fut déjà émise l'année dernière lors du CA à Madrid. À cette période, il y a 1 an, le réseau avait rédigé une étude à la demande du groupe des Verts du Parlement européen intitulée « Agence Frontex, quelles garanties pour les droits de l'homme ?» L'étude se terminait en proposant quelques recommandations à destination du Parlement relatives à la proposition de la Commission de modification du règlement portant création de Frontex. Le Parlement et le Conseil sont arrivés à un accord en juin dernier sur les modifications à apporter au règlement. Le Parlement européen a donné son feu vert en septembre et le Conseil a adopté les nouvelles règles qui régiront le fonctionnement de l'agence le 10 octobre dernier. Il ne reste plus aux deux institutions qu'à signer le règlement. Le règlement sera ensuite publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur 20 jours plus tard, sans doute avant la fin de l'année, donc l'année 2023. Loin de répondre aux préoccupations du réseau quant à la compatibilité du fonctionnement de l'agence avec le respect des droits fondamentaux, vous verrez que le nouveau règlement en provoque de nombreux autres. Quelles sont les pistes juridiques d'action qui pourraient être intentées contre l'agence, notamment pour engager sa responsabilité en cas de violation de droits fondamentaux des migrants? Le cadre dans lequel Frontex opère n'offre pas suffisamment de garanties quant au respect des droits humains, droit de demander l'asile et le principe de non-refoulement, le droit de quitter son pays, l'interdiction de traitements inhumains et dégradants, le droit à la protection des données à caractère personnel, l'interdiction de discrimination, le droit au regroupement familial, etc. Pourtant, la volonté des États membres de réduire l'immigration irrégulière a donné lieu à des situations dramatiques au cours desquelles des personnes ont péri, faute d'avoir été secourues à temps, à des querelles entre États membres à propos de la « charge du fardeau », entre guillemets, et à des détournements de bateaux vers des ports de pays tiers. Quels sont nos moyens d'action contre l'agence? Donc, une étude de la Direction générale des politiques internes de l'Union passe en revue les différents moyens d'engager la responsabilité de Frontex. L'étude constate qu'il n'est certes pas évident d'engager la responsabilité de l'agence et d'assurer aux individus victimes de violations de leurs droits fondamentaux un accès à un recours effectif. Toutefois, plus Frontex assumera de nouvelles compétences et plus les chances seront grandes d'arriver à engager sa responsabilité pour ses actions. Premièrement, la Cour de justice de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne étend les compétences de la Cour de justice de l'Union européenne aux actes de l'agence Frontex et à toutes les matières relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'agence pourrait dès lors devoir répondre d'un certain nombre de comportements devant la Cour, selon les modalités de recours prévues. Depuis lors, la Cour peut appliquer et interpréter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle le traité de Lisbonne reconnaît la même valeur juridique que les traités. Trois pistes sont envisagées dans l'étude précitée. Introduction d'une action en annulation, donc devant la Cour de justice de l'Union européenne. L'objectif de cette procédure pour le requérant est d'obtenir l'annulation d'un acte. Selon l'article 263, la Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Jusqu'à présent, la Cour a considéré que cet acte juridique devait être un acte au sens formel, un document officiel serait donc nécessaire. Jusqu'ici, il aurait été difficile d'introduire une telle procédure, car un acte juridique contre lequel diriger l'action est nécessaire. Or, Frontex planifie ses actions sur la base de documents qualifiés de techniques, analyse de risque par exemple, qui restent souvent secrets. Le nouvel article 3 prévoit dorénavant que le directeur exécutif établit un plan opérationnel pour les opérations conjointes et les projets pilotes, sur lequel le directeur et l'État membre autre devront s'accorder en concertation avec les États participants. Ce plan détaille tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe du projet ou projet pilote, notamment la situation dont le mode opératoire et les objectifs du déploiement, la durée de l'opération, la zone géographique où elle aura lieu, les tâches des agents et la composition des équipes d'agents invités, les chaînes de commandement et de contrôle, les équipements, les modalités de notification des incidents éventuels, le système de rapport et d'évaluation, les modalités de coopération avec les pays tiers et autres organismes, et pour ce qui concerne les opérations en mer, les informations sur la juridiction et la législation concernées, ainsi que les références au droit international et européen de sauvetage en mer. Ce plan opérationnel détaillé pourrait éventuellement être considéré par la Cour de justice de l'Union européenne comme un acte législatif. Les conditions de recevabilité sont précisées au paragraphe 4 de l'article 263. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues au premier et deuxième alinéa, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. Selon la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, il est nécessaire que, citation, « la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre. Il risque d'être difficile de prouver qu'un acte de l'agence Frontex s'adresse directement à un individu. Tout est organisé pour éviter les contacts directs entre l'agence et les individus. Les États restent responsables du contrôle et de la surveillance des frontières. L'agence ne fait que faciliter l'application des dispositions européennes en matière de gestion des frontières et assure la coordination des actions des États membres. Toutefois, Frontex dispose de plus en plus de compétences opérationnelles et les chances augmentent qu'elle adresse un acte à un particulier, même sans le vouloir. En outre, la Cour est susceptible d'opter pour une approche plus flexible concernant les critères de recevabilité d'une action en annulation pour éviter que les plaignants ne disposent d'aucun recours effectif contre l'agence. Le Parlement européen, la Commission ou le Conseil ne sont pas soumis à ces conditions de recevabilité strictes. Ils pourraient dès lors amener une affaire devant la Cour de justice européenne en cas de violation des droits fondamentaux. Une plainte pourrait être faite auprès du Parlement européen ou de la Commission par un particulier ou une ONG qui décidera peut-être de s'en saisir et jouer un rôle actif dans la procédure. Deuxième point, la responsabilité extra-contractuelle. Le traité n'étend pas la compétence de la Cour aux agences en matière de responsabilité. Toutefois, l'article 19 du règlement dispose que Frontex assumera sa responsabilité devant la Cour de justice en matière extra-contractuelle pour tout litige concernant la réparation des dommages causés par les services de l'agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle de droit communautaire a pour objet de leur conférer des droits. La violation est suffisamment caractérisée. Il existe un lien de causalité directe entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. Frontex pourrait prétendre que l'action des États membres participant à l'opération rompt la chaîne de causalité qui devrait exister entre l'acte de l'agence et le préjudice subi par un particulier, en présentant l'État comme acteur de l'opération en se retranchant derrière son rôle de coordinateur. Toutefois, la Cour a déjà estimé que si une instance de l'Union a échoué dans sa compétence particulière de surveillance des actions des États membres, sa responsabilité pourrait être engagée. Or, le nouveau règlement élargira les compétences de l'agence Frontex, organisation d'opérations de retour, mise en œuvre du plan opérationnel, suspendre ou mettre fin à des opérations en cas de violation des droits fondamentaux, etc. Et l'agence pourrait dès lors être considérée à l'avenir comme étant suffisamment à même de superviser les actes des États membres, ce qui l'empêcherait de se défausser de ses responsabilités. Exemple, Frontex sera dotée du pouvoir de coordonner et d'organiser des opérations de retour. Elle pourrait se rendre coupable d'une violation suffisamment caractérisée en ne prévoyant pas de mesures suffisantes pour garantir la sécurité des expulsés. Exemple, opération Rabbit Poseidon en Grèce. Ne pourrait-on pas considérer que Frontex aurait dû garantir la sécurité des personnes interceptées au lieu de les transférer dans des lieux de détention connus pour ne pas respecter l'interdiction de traitement inhumain et dégradant? L'agence pourrait être considérée comme ayant failli à sa compétence particulière de surveillance et dès lors en être indirectement responsable. Autre exemple, dans le cadre d'une opération de retour conjointe, les agents dans l'exercice de leurs fonctions pourraient se rendre coupables d'une violation du droit au respect de la vie privée lors du transfert des données à caractère personnel des migrants se faisant expulser. L'article 11 ter nouveau prévoit que l'agence peut traiter des données à caractère personnel des personnes qui font l'objet de telles opérations de retour conjointe. Le traitement de données à caractère personnel, le risque existe que les données ne soient pas bien protégées. Le nouvel article 11 prévoit notamment que l'agence peut traiter ultérieurement des données à caractère personnel recueillies par les États membres pendant de telles activités opérationnelles. JO, projet pilote, intervention rapide, etc. est transmise à l'agence en vue de contribuer à la sécurité des frontières extérieures des États membres. L'objectif est flou. En outre, Frontex peut traiter ces données pour les transmettre à Europol et d'autres agences répressives de l'Union. Et pour la préparation des analyses de risque, certaines opérations de Frontex ont dans le passé déjà visé des catégories de personnes, notamment lors de l'opération Hydra. Troisième point, question préjudicielle, devant la Cour de justice européenne. Action relevant des juridictions devant les juridictions nationales, vu que l'acte violant les droits fondamentaux risque dans de nombreux cas d'être posé par une autorité nationale, il y a plus de chances pour que les actions soient introduites au niveau national. Même dans ces cas, vu le lien avec une agence, le juge national pourrait décider de porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne en posant une question préjudicielle sur l'interprétation ou la validité d'un acte de l'agence, comme un plan opérationnel d'une opération conjointe ou d'un projet pilote prévu par l'article 3 bis du règlement modifié. Si un individu victime d'un refoulement, par exemple, parvient à déposer une plainte auprès d'une instance nationale, on pourrait demander au juge national de poser une question de compatibilité de cette action avec les droits de l'homme dans l'acquis communautaire. Mais peu effectif, malheureusement. Depuis 2009, il existe une procédure d'urgence applicable spécifiquement en matière de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment pour les personnes détenues. Exemple, une personne détenue dans un centre fermé ou a été transférée par Frontex sur la base du plan opérationnel. Cette procédure permet d'obtenir une réponse dans un délai de quelques semaines. Il est fortement conseillé à l'avocat de justifier l'urgence de la situation, de rédiger la question de manière précise et d'éventuellement proposer une réponse à sa question afin d'accélérer le traitement de la demande. Mais c'est une grosse difficulté. Identifier une victime qui souhaiterait introduire une procédure contre Frontex devant la juridiction d'un État membre. Il revient en outre au juge national de décider de poser la question à la Cour de justice européenne ou de s'en abstenir. Conclusion. Plusieurs difficultés auxquelles il faut faire face. Trouver les victimes, multiplicité des acteurs contrôlant les frontières, agences Frontex, États membres, agents nationaux, pas de définition de ce qu'on entend par coordination opérationnelle, nature de l'agence qui tente d'éviter le contact direct avec les individus, qui se présente purement bureaucratique et comme étant un agent technique, confère donc les accords de travail conclus avec les autorités des États tiers. Les obstacles sont nombreux pour qu'une victime puisse bénéficier d'un recours effectif, mais l'augmentation des pouvoirs de l'agence Frontex aura sans doute pour conséquence d'accroître les chances de voir sa responsabilité engagée devant les cours et tribunaux. Et tout cela reste bien évidemment à vérifier. Et donc l'autre aspect, c'est celui qui concerne les possibilités offertes par la Cour européenne des droits de l'homme, que donc le traité de Lisbonne prévoit que l'Union européenne adhère en tant que telle à la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Jusqu'à présent, tous les États membres de l'UE sont partis à la CEDH, mais pas l'UE en tant que telle. Cela signifie que la CEDH n'est pas directement applicable vis-à-vis des institutions de l'UE. En vertu du traité, l'Union est désormais obligée de devenir partie à la CEDH. Toutefois, le traité ne fixe aucun délai et soumet cette adhésion à une procédure qui nécessite l'accord des membres du Conseil à l'unanimité et du Parlement européen. En cas de violation de la CEDH par un organe de l'UE, il était impossible d'introduire un recours à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg contre une institution de l'UE. Lorsque l'UE aura ratifié la CEDH, cela va donc changer. Ce sera la première fois qu'une organisation internationale deviendra partie à la CEDH. Mais comme ça a été dit, donc, il n'y a aucun délai pour que ce soit mis en place. Il est donc nécessaire d'attendre l'adhésion définitive de l'Union européenne à la CEDH. Lorsqu'elle y aura adhéré, il sera possible de mener des actions et d'introduire des recours directement contre l'Union européenne, donc contre Frontex. Voilà, donc c'est un article d'une conseillère juridique qui a fait ce constat, qui est un élément du dossier qui montre la complexité pour faire valoir les droits des migrants. Voilà, donc je vous propose de terminer cette chronique par le choix musical. Je vous propose d'écouter la chanteuse Juliette, « Aller sans retour ».
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez, sans retour, allez, sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez, sans retour, allez, sans retour. Que j'oublierai si j'étais l'un d'eux. Mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
Thank you.
conclusion de cette chronique. Eh bien, comme chaque semaine, je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller en direct le lundi à 11h30 sur Radio Libre en Périgord. Merci et à la semaine prochaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.